Connaissez-vous l'anecdote des langues d'Ésope, le célèbre fabuliste grec? On raconte que son maître Xanthos, lui ayant donné l'ordre d'acheter au marché ce qu'il y aurait de meilleur, Ésope n'acheta que des langues, sous prétexte qu'il n'y a rien de meilleur que la langue, le lien de la vie civile, la clé des sciences, l'organe de la vérité et de la raison, de la prière, etc. Pour l'embarrasser, Xanthos lui commanda le lendemain d'acheter ce qu'il y a de pire. Le lendemain, Ésope ne fit servir que des langues, disant que la pire chose qui soit au monde, c'est la langue, mère de toutes les disputes, source des divisions et des guerres, organe de l'erreur et de la calomnie, du blasphème et de l'impiété. Il n'est pas nécessaire de réfléchir longtemps pour juger de l'extraordinaire puissance d'action que nous avons tous par notre langue. Puissance bienfaisante aussi bien que puissance de destruction. Hélas, nous nous servons souvent de ce membre, inconsidérément, à la légère, selon la démangeaison du moment. Et il nous arrive ce qui arrive souvent à celui qui manipule un explosif sans précaution. On ne saura jamais tout le mal qui a été causé par les agitations insensées de la langue humaine. Par la langue, l'homme pèche contre Dieu, en blasphémant, en ridiculisant la religion, en ne prononçant son nom que pour jurer. Par la langue, l'homme pèche contre son prochain, en l'injuriant, en médisant de lui, en le calomniant. Par la langue, l'homme pèche contre lui-même. Car, tandis qu'il parle de Dieu et des autres avec dédain, mépris ou indifférence, il devient intarissable d'éloges lorsqu'il parle de lui-même. Il met son « moi » en avant et rayonne d'orgueil, de vantardise et de suffisance. C'est précisément à cause de tout le mal que la langue peut faire, avec une angoissante facilité, que les Écritures attirent notre attention sur ce membre minuscule et pourtant si efficace. Jacques, le témoin du Christ, consacre tout un paragraphe au problème de la langue. Il souligne la disproportion entre la petitesse de la langue et l'influence énorme qu'elle exerce dans la vie de l'homme. En outre, il insiste sur la nécessité de contrôler l'activité de ce membre pour éviter l'anarchie et le désastre. Ce langage peut paraître exagéré à première vue, mais on comprend vite qu'on ne peut pas être trop ferme ni trop catégorique lorsqu'on sait toutes les souffrances qu'une langue indomptée peut causer. Pour nous enseigner ces leçons, Jacques prend trois exemples frappants. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire obéir, dit-il, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux, si grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un membre minuscule, et elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. Comme l'étincelle, la langue est insignifiante en apparence, inoffensive, croirait-on. Mais en fait, elle est la cause des plus grands désastres. Elle a le pouvoir de mettre en feu, de compromettre moralement toute une existence. Combien de frères et d'amis, définitivement séparés et ennemis, par des paroles blessantes. Et nous savons que les blessures infligées à l'esprit sont plus douloureuses et plus durables que celles infligées au corps. Combien de foyers qui se détruisent peu à peu par des mots où chacun veut avoir le dernier mot, et que l'on choisit dur, catégorique et blessant. Des mots dont on se sert comme d'une arme, pour écraser, pour déchirer, pour humilier, pour tromper, pour vaincre. David compare la langue à un rasoir effilé. Salomon, dans ses proverbes, déclare parallèlement « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Pourquoi parlons-nous ? Pour communiquer avec nos semblables, bien sûr, mais quelle est la nature de ces contacts? Si nous nous examinons avec lucidité, il apparaît que le plus souvent, nous parlons parce que nous obéissons à une impulsion, c'est-à-dire à une sorte de démangeaison. Ainsi, on éprouve le besoin d'exprimer une opinion, un sentiment, lequel peut être l'affection, l'indignation, la douleur, la haine, la jalousie, le mépris. En somme, tout ce qui se trouve dans le cœur finit par se retrouver au grand jour, par l'intermédiaire de la langue. Les mots sont vraiment le véhicule de la pensée. C'est en fait ce que Jésus a dit dans un de ses discours. « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, dit-il, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Voilà un avertissement du Seigneur apte à nous faire réfléchir. Supposez que vous puissiez écrire tout ce que vous dites au long d'une journée, et puis relire tout ce qui a été écrit en éliminant toute parole vaine, fausse ou mauvaise. Combien de lignes vous resterait-il après ce travail de censure? On a calculé qu'en l'espace de 70 ans, un individu moyen pourrait ainsi composer une bibliothèque d'environ 3640 volumes, de 525 pages chacun, rien que par sa conversation. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais combien effarant aussi, lorsqu'on pense à tout ce temps perdu, où l'on a parlé pour ne rien dire, où l'on a médit, calomnié peut-être, insulté, blessé, menti, trompé, tout ce temps où l'on a nettement l'impression que le vaisseau de notre vie était privé de gouvernail, livré au gré et aux caprices de toutes les vagues, de tous les vents, de toutes les démangeaisons. Les Écritures déclarent « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. » Le même auteur dit encore, et c'est Jacques qui parle, « Les bêtes sauvages et oiseaux, les reptiles, les animaux marins de tout genre sont domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l'amer? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne des figues? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Sommes-nous coupables de cette anomalie qui consiste à bénir Dieu le dimanche et à mépriser les hommes pendant la semaine, les hommes faits à l'image de Dieu? Pour l'apôtre Jean, une telle attitude est mensonge, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, dit-il, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La grande leçon que nous pouvons tirer de ce texte est la suivante. Apprends à maîtriser ta langue et tu maîtriseras ton cœur. Encore faut-il le désirer. Et demeurer conscient et lucide devant cette responsabilité, comme un cavalier qui tient fermement la bride de sa monture, car il sait que s'il n'en demeure pas le maître, il sera son esclave. Écoutez ces conseils tirés du livre des psaumes. Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Nous dirions sans doute, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Combien de fois n'avons-nous pas amèrement regretté d'avoir ouvert la bouche pour parler, d'avoir préféré le venin de la langue à l'or du silence? Salomon déclare, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Il dit encore, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. » Il est évident qu'il ne s'agit pas de se taire continuellement. Le silence n'est pas une absolue garantie de sagesse. Il y a aussi un temps pour parler. C'est précisément la langue des hommes que Dieu a choisie pour transmettre son évangile et faire connaître son salut. Et c'est là aussi la raison d'être de la langue. Elle a été créée dans le but de servir Dieu. C'est lorsqu'elle s'écarte de cette fonction qu'elle crée le désordre, c'est-à-dire le péché et la souffrance. Dans notre monde ainsi déréglé par l'anarchie de la langue, le chrétien est appelé à contrebalancer le mal. Il est le sel de la terre. Il doit aider au salut du monde. Par son exemple, Par sa conversation, il doit dresser un barrage aux méfaits de la langue, en commençant par lui-même. Ainsi l'apôtre Paul écrit-il, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » L'énumération de tous ces mots nous ramène encore directement au problème d'une langue débridée et indomptée. Pour conclure ces méditations et vous donner en même temps un remède souverain contre les paroles désordonnées que nous prononçons, cause de tant de souffrances, je rappellerai cette simple injonction de l'apôtre Paul. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.